Les profs, les surveillants, la direction individualisent les comportements au lieu de considérer qu'en fait c'est tout à fait systémique et comment des profs, la direction sont eux-mêmes homophobes, racistes, sexistes dans leur façon de se positionner, de lire les situations et en fait contribuent eux-mêmes à ces situations de mal-être, de harcèlement, etc. Dans l'école. Pour remettre en question ces carcans-là dans lesquels on s'inscrit, il faudrait vraiment repenser radicalement les espaces scolaires et accompagner aussi les enfants à se repenser différemment en dehors des normes de genre.
Bonjour à tous, je m'appelle Colin et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Cette semaine, on a décidé de faire entendre un témoignage, celui d'une ancienne CPE qui a tenté de concilier ses convictions féministes et son devoir de réserve. Amy Edash a travaillé en collège et en lycée et elle a pu constater à quel point l'institution scolaire était conservatrice et participait même à entretenir les dominations systémiques. Alors elle a tenté de lutter, à la manière de l'Alliance Rebelle contre l'Empire, avec parfois quelques victoires, mais comme même beaucoup de déconvenues. Aujourd'hui, elle a quitté l'éducation nationale et se consacre à son association La Foudre Prend Racine, une association féministe culturelle et d'éducation populaire qu'elle a fondée à Bordeaux. Alors peut-on penser l'école en féministe, au-delà des formules parfois un peu creuses sur l'égalité filles-garçons et la lutte contre les stéréotypes? Comment l'école favorise-t-elle la reproduction de violences sexistes et sexuelles? Peut-on encore espérer la changer de l'intérieur? Et pourquoi n'a-t-on jamais vu Jean-Michel Blanquer et Palpatine au même moment dans la même pièce? C'est à ces questions qu'Amy s'attaque désormais dans une conférence gesticulée sobrement intitulée « Rébellion d'une CPE », un petit spectacle tout public avec, vous l'aurez compris, de vrais morceaux de Star Wars dedans à découvrir ce week-end à la station Gare des Mines. Bonjour Amy Edash.
Bonjour Colin Mouquet.
Avant de commencer, on va peut-être rappeler ce qu'est une conférence gesticulée. Si j'ai bien compris, c'est un mélange de, tu dis en préambule de la conférence, savoir froid, donc savoir institutionnel, livre, chercheur, chiffre, etc. Et de savoir chaud, là c'est vraiment ton expérience.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et en éducation populaire, on dit que les deux ne se hiérarchisent pas, qu'il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre, que les deux se valent et qu'on a même besoin de la rencontre de ces deux types de savoir pour produire des représentations justes et situées du monde.
Voilà, et ça donne vraiment un truc très intéressant dans Rébellion d'une CPE. Donc ta conférence gesticulée, c'est quoi une CPE? On a tous croisé des CPE, sans doute si on est déjà allé à l'école, au collège ou au lycée. Mais à quoi ça sert exactement?
Une CPE, à quoi ça sert? Waouh, la question. Donc, une conseillère principale d'éducation, ça s'occupe de tout ce qui touche à la vie scolaire des élèves, c'est-à-dire tout ce qui va être en dehors des heures de cours, les pauses, les récréations, le temps méridien. Aussi, comme on a un regard systémique sur ce qui se passe dans l'établissement, bah, ça touche à est-ce que cet élève il est absent en cours régulièrement? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il rencontre des difficultés dans sa socialisation, puisqu'on va on va pouvoir l'observer vis-à-vis de ses camarades dans des temps qui sont hors cours. On va aussi être en charge de tout ce qui concerne les punitions et les sanctions, puisqu'on nous traite souvent, et ça beaucoup de CPE bien sûr s'en récuse, mais comme les gendarmes de l'établissement, où on est là pour punir, pour assurer l'ordre et l'autorité au sein des établissements. En tout cas, c'est une attente forte de la part de la communauté éducative qui nous positionne à cet endroit-là. Mais on peut être aussi des personnels qui s'occupent de proposer des projets socioculturels. Ça, c'est un héritage en fait, des années 70, puisque les CPE, c'est un peu issu de mai 68 aussi, de cette idée qu'on apprend pas forcément que en classe, on apprend aussi par des projets, des clubs, des choses comme ça.
Par la pratique.
Voilà, exactement, par des pratiques artistiques, culturelles, les foyers socio-éducatifs, les choses comme ça. Et puis, on est un peu l'interface, en vrai, entre tout le monde, entre les profs, les élèves, la direction, les parents.
Une vision un peu panoramique de toute la communauté scolaire, quelque
part. Exactement, c'est ça. Et du coup, on est aussi le fusible, parce que quand il y a un truc qui va pas. C'est de notre faute.
C'est la CPE. Alors toi, tu as quitté l'éducation nationale il y a 2 ans, après y être entrée en 2008. T'es en tant que surveillante à l'époque, t'es devenue CPE quelques années plus tard. Avec quels idéaux tu débarques dans l'éducation nationale, Amy ?
Alors en 2008, avec pas beaucoup d'idéaux.
Avec le besoin de travailler peut-être.
Voilà, un job alimentaire. Moi je suis une ancienne élève harcelée, donc j'arrive quand même avec ce bagage-là et avec ce que je vois de ma place d'élèves qui toujours, de cette violence scolaire qui existe toujours, d'élèves qui sont mis au banc, que certains n'aiment pas et dont le système à l'époque ne sait toujours pas quoi faire, hein, les adultes compris. Et puis, comme je l'explique aussi dans ma conf, moi je viens au féminisme par le fait de devenir parent. Donc c'est en 2011. Je découvre le féminisme par le fait que, on le sait, au moment d'une grossesse et de l'arrivée d'un enfant, beaucoup de normes cis-hétéro-patriarcales sont réactivées.
Beaucoup d'attentes qui pèsent dessus à ce moment-là.
Qui pèsent sur les mères, ouais. Exactement. Et donc, à l'époque, je suis dans un couple hétéro. Donc, ça se rejoue. Et donc, je viens au féminisme et je suis en même temps dans un lycée, donc surveillante. Et c'est aussi une époque où, comme ministre de l'Éducation nationale, vers 2012-2013, on a Najat Vallaud-Belkacem.
Sous la présidence de François Hollande, du coup.
Exactement.
Donc, le PS était au pouvoir à l'époque.
Et il y a le mariage pour tous.
Voilà.
Et à cette époque-là, donc, moi, je me pose la question de qu'est-ce que je vais faire après ma licence de psychologie que je viens de terminer. J'ai mon premier enfant et je me dis, pourquoi pas CPE ? Parce que on a une ministre qui s'intéresse à l'égalité des genres à l'école, qui écrit même ses circulaires en inclusif. Plusieurs années plus tard, on a Blanquer qui interdit d'utiliser quand même l'écriture inclusive à l'école, à un moment où il y a une lame de fond féministe qui pousse vers ça, et Najat Vallaud-Belkacem, elle le fait à un moment où quasi aucune collectivité territoriale, quasi aucune institution ne le fait. Donc moi, ça me fait me dire qu'il y a un travail qui peut être fait à cet endroit-là, et aussi par mon expérience de CPE, par mon expérience de surveillante, je me dis pourquoi pas ce métier, c'est un métier de terrain avec du contact avec les ados. J'ai des choses à réparer de ma relation à l'école, des choses à réparer pour les ados eux-mêmes, donc j'y vais, voilà.
Alors un des points de départ, si je puis dire, de cette conférence, c'est un conflit autour d'une tenue vestimentaire d'une élève et c'est pas anodin.
Ah non, ça c'est quelque chose que j'ai vécu tout au long des années où j'ai travaillé dans l'éducation nationale. C'est la question des tenues vestimentaires et en particulier celle des filles, évidemment, qui est constamment regardée, scrutée, etc. Qu'elles soient trop courtes, trop décolletées ou au contraire trop longues, trop... prosélyte entre guillemets, et ces tenues vestimentaires, voilà, moi j'ai fait quand j'étais surveillante, je faisais de la résistance passive parce que d'une place où je n'avais pas de responsabilité, je disais rien aux élèves. et si mes CPE disaient quelque chose, je disais aux élèves, à part que j'étais pas d'accord avec ce qu'elles disaient, mais que je n'avais que le choix de faire comme si, de suivre leurs ordres. Et après, quand j'étais CPE, je me prenais la tête avec mes collègues en leur expliquant qu'on n'avait pas à sexualiser le corps des filles, en particulier mes directions.
Tu te retrouves, tu racontes des réunions de direction, donc où toutes les instances décisionnaires un petit peu de l'établissement se retrouvent pour traiter tout un tas de sujets, et t'essayes quand même de mettre ce sujet sur la table, de peut-être arrêtons d'être systématiquement dans le contrôle des tenues vestimentaires et des corps en fait des filles, et tu te heurtes toujours à quand même de la résistance.
Tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis beaucoup heurtée à de la résistance. J'expliquais à certains collègues qui comprenaient mes arguments et même pouvaient à des moments me dire « Ah oui, c'est vrai, avec cet angle-là, on peut l'imaginer », mais qui, assez vite, assez régulièrement, revenait aux paramètres d'usine, à critiquer la façon dont les jeunes filles s'habillaient. Et donc, j'avais l'impression d'être un peu Sisyphe aussi avec ça quand même. Hein, voilà.
Et puis, et là, on va aller du côté des savoirs froids. Tu parles d'une géographe qui parle de comment les espaces scolaires sont un peu pensés de manière sexiste. Elle parle des toilettes, elle parle de la cour de récréation.
Oui, c'est Edith Marie Jules, qui est géographe, qui est basée à Bordeaux, qui a fondé La Robe, qui fait un travail incroyable dans les établissements scolaires, parce qu'elle y va avec des assistants et elle travaille vraiment in situ pour créer des espaces scolaires qui sont démarqués des questions, enfin de, et qui créent de la mixité en fait, parce que ce qu'on peut observer dans les établissements, c'est que les élèves ne se mélangent pas, c'est-à-dire d'un côté on a les garçons, de l'autre on a les filles, et tout ça est complètement appuyé, renforcé par la façon dont on pense les espaces scolaires, effectivement, avec le terrain de foot au milieu de la cour,
prend toute la place.
La façon dont on pense la socialisation en elle-même, c'est-à-dire on part du principe que les garçons, ils ont besoin de se dépenser, donc ils vont devoir faire du sport, tandis que les filles, bah, elles vont plus papoter. Mmh. Et ça, c'est ce que j'appelle aussi dans la conf des prophéties autoréalisatrices, parce qu'on a ces attentes-là, bah, c'est exactement la façon dont les adolescents se comportent, et on peut venir valider le biais cognitif qu'on a mis en place. Voilà.
Et bien justement, effectivement, on va écouter un moment de la conférence où tu abordes ce sujet avec les gens qui viennent t'écouter.
Les gamins se harcèlent à base de sexisme, ils se traitent de tapette, de PD, de fille, parce que faut pas être une fille, on le sait. Et donc moi, en constatant ça, je me suis dit quand même il y a un problème, parce que si on l'aborde que d'un côté individuel, on ne peut pas régler le problème à sa base. Donc ce que j'ai essayé de faire, parce que moi ce que j'avais constaté c'était énormément de problématiques sexistes, c'est que j'ai essayé de travailler en prévention avec les élèves. Et donc je faisais des heures de vie de classe avec les classes de 5e, donc j'y prenais une heure, et j'écrivais au tableau comme ça, d'un côté garçon et de l'autre fille, et je leur demandais quels sont les stéréotypes et les clichés associés à chacun des deux genres, et de me dire, ben voilà, qu'est-ce qui leur venait. Et maintenant, c'est à vous.
Voilà, et maintenant, c'est à vous. Alors là, dans ces cas-là, les gens qui viennent assister à ta conférence gesticulée, rébellion d'une CPE, bon, ils te donnent un petit peu les choses très attendues. Hein, donc, les filles sont plus sensibles, les garçons sont forts, ils pleurent pas, etc. Mais ça, ce que tu dis, c'est qu'à 12 ans, les fameux cinquièmes avec qui tu fais ça, ils ont aussi intégré ça, et ils ont aussi intégré que oui, mais ces stéréotypes, c'est vraiment des stéréotypes. Ils ont déjà tout compris, en fait, quelque part.
Oui, tout à fait. Ils ont déjà pointé du doigt ces choses-là. Après, il y en a qui pensent qu'il faut s'y conformer parce qu'en en fait, ils s'achètent une paix sociale avec ça, hein, très clairement. Mais ils ont identifié ces stéréotypes, tout à fait. Et ce que je dénonce après dans la conf par rapport à ça, c'est que finalement, on fait pointer du doigt toute la culture qui pèse sur leurs épaules. Mais c'est pas, ils en sont que les je sais pas comment dire, que les récipients. Ils sont pas, c'est pas eux qui ont créé cette culture qui les amène à se comporter comme ça.
C'est exactement la prophétie autoréalisatrice dont tu parles, finalement. C'est exactement ça,
c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ce que je dis aussi, c'est que ben, pour remettre en question ces carcans là dans lesquels on s'inscrit, il faudrait vraiment repenser radicalement les espaces scolaire et accompagner aussi les enfants à se repenser différemment en dehors des normes de genre.
Et tu dis justement que ces normes, elles ne sont pas tout à fait interrogées, justement parce que l'école prétend à une forme de neutralité. Il y a une neutralité à l'école et donc il n'y a pas du tout d'idéologie, il n'y a pas du tout de politique. Il y a même d'ailleurs un directeur d'établissement, on en reparlera plus tard, qui te dit « Amy, il ne faut pas faire de politique à l'école ».
Eh oui, bah, ça c'est l'argument qui revient tout le temps dès qu'on essaye de poser des choses progressistes à l'école, c'est qu'on y fait de la politique, alors que les lames de fond réactionnaires, elles sont présentes puisque ce sont les personnes qu'on a au pouvoir, et en fait, nous, quand on essaye d'apporter quelque chose de progressiste, bah, on essaye de changer quelque chose, et il ne faudrait pas vouloir changer quelque chose. Et puis il y a toujours, comme il n'y a pas cette idée que le sexisme, le racisme, racisme, les questions de classe sont systémiques, c'est juste des questions individuelles de personnes qui n'ont pas très bien compris les valeurs de la République, à qui il faudrait les réexpliquer, que c'est vraiment des questions d'une personne qui se comporte un peu mal, mais ça n'est pas la façon dont notre société est structurée. Forcément, à partir du moment où on veut venir questionner, on questionne aussi les adultes dans le système. Et les adultes, ils ne sont pas du tout prêts à se questionner sur tout ça et sur leur place dans tout ça.
Et du coup, tu désobéis, tu donnes, je crois, l'exemple de la circulaire Blanquer, alors qu'il y a un côté positif, puisque enfin, elle dit non, il faut utiliser le pronom choisi par les élèves trans, mais... Et il y a un gros mais, à condition que les parents soient d'accord. Et forcément, ça crée tout un tas de crispations. On en avait parlé dans nos précédentes émissions ici dans le lobby. Et toi, tu désobéis du coup en disant bah non, en fait, quoi qu'en disent les parents, il faut quand même recourir au bon pronom le plus possible. Et tant pis pour la circulaire Blanquer.
Bah, c'est que cette circulaire, elle est arrivée après que j'ai quitté quand même les établissements. Et je pense que des collectifs comme Queer Education ou d'autres personnes vraiment ont pu dire à quel point elle mettait en difficulté là où elle était censée clarifier. Elle mettait en difficulté les personnels sur les positionnements à avoir. Moi, surtout, ce que je défends, c'est que le fait de mégenrer son propre enfant en soi est une violence. Est une maltraitance et que moi je voudrais que les services socio-médicaux des établissements scolaires comme les infirmières et les assistantes sociales comprennent que quand un enfant est mégenré, c'est une violence et une maltraitance qu'on lui fait et que ce qui en découle. Ce qui serait logique quand on apprend qu'un enfant est maltraité par ses parents, c'est-à-dire on fait un signalement, on lui dit qu'il est en train de vivre une violence, on l'accompagne par rapport à ça, bah, que ça soit aussi le cas pour les élèves qui sont trans et qu'on ne remette pas en question leur transidentité en disant bah, voilà, c'est l'adolescence, etc. Et c'est sûr que dans mes établissements, quand j'ai eu des élèves trans, on a fait au maximum pour les accompagner et pour respecter effectivement leurs demandes et leurs besoins, même parfois contre l'avis des parents, bien sûr.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Alors Rémi, un autre fléau auquel l'école peine encore à être efficace dans la manière qu'il a de lutter contre et qui découle de ce qu'on disait à l'instant, c'est donc le harcèlement scolaire, t'en as parlé. Une étude commandée par le ministère de l'Éducation nationale cette année a montré qu'il touchait 7% des lycéens et 11% des collégiens. Et nous, quand on avait vu cette étude avec l'équipe du lobby, on s'était dit bah, c'est intéressant de faire en sorte de quantifier ce phénomène. Mais ce que le ministère a l'air d'encore un peu ignorer, c'est que ces violences scolaires, bon, bah, elles ne tombent pas sur n'importe qui un peu au hasard et que les victimes sont souvent... notamment des jeunes personnes LGBT+. Et pour en parler à l'époque, on avait reçu une sociologue que tu connais bien, c'est Gabrielle Richard. Elle est notamment l'autrice de Hétéro l'école, avec un point d'interrogation. C'est sorti en 2019 aux éditions du Remue-Ménage. On l'écoute.
L'éducation nationale va beaucoup positionner l'enjeu comme étant une lutte aux LGBT-phobies et va souvent cibler le problème comme étant un problème de jeunes entre eux, entre elles. C'est-à-dire qu'on va se positionner en tant qu'adulte comme étant un peu extérieur au problème. On se dit les jeunes sont violents, violentes. Et pour peu qu'on soit assez vigilant, vigilante, ben on va mettre un terme, on va les éduquer et ça va aller mieux. Ce constat-là, il ne prend pas en considération la manière dont ces LGBT-phobies sont systémiques, sont pleinement en train d'infuser le milieu scolaire, dans les contenus scolaires, dans la manière dont on forme les adultes à intervenir ou à ne pas intervenir, dans les silences, dans la salle de classe, dans les espaces scolaires genrés, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas documentées dans ces seules enquêtes de climat scolaire. Et c'est aussi ça qui donne toute cette ampleur aux expériences scolaires de nos jeunes queers et de l'ensemble de nos jeunes.
Gabrielle Richard, au micro de notre journaliste Diego Decao. Émission à retrouver, bien sûr, sur toutes les applications de podcast. Peut-être une réaction à ces propos de Gabrielle Richard, Amy.
Moi, déjà, j'ai envie de dire Hétéro l'école, ça a changé de ma vie. Je l'ai lu l'été avant de faire mon burn-out et de quitter, en fait, d'arrêter de travailler comme CPE. Je pense que c'est pas un hasard, ça m'a fait complètement basculer parce qu'en fait, j'ai trouvé dans ce livre voilà, tous mes savoirs chauds, en fait, décrits en savoir froid, toutes les études qu'elle peut poser sur la façon dont on met... voilà, les élèves dans l'hétérosexualité, etc., à l'école. Et moi, je rejoins complètement ce qu'elle dit. Et c'est ce que j'ai pu observer maintes et maintes fois de ma place sur le terrain. Comment, voilà, c'est ce que je disais, en fait, comment les profs, les surveillants, la direction individualisent les comportements au lieu de considérer qu'en fait, c'est tout à fait systémique, et comment des profs, la direction sont eux-mêmes homophobes, racistes, sexistes dans leur façon de se positionner, de lire les situations, et en fait contribuent eux-mêmes à ces situations de mal-être, de harcèlement, etc., dans l'école.
Face à ce phénomène, le gouvernement veut montrer qu'il prend le sujet au sérieux. Il y a un numéro vert qui a été mis en place, le 30-18, et puis l'ex-ministre de l'Éducation nationale et ex-premier ministre Gabriel Attal, j'ai remarqué ça, vient de lancer une association qui s'appelle Faire Face pour lutter contre ce fléau. Au-delà des discours, des effets d'annonce, est-ce que toi, tu as constaté sur le terrain une réelle évolution entre le moment où toi, tu as subi du harcèlement scolaire, on en a parlé, en tant qu'élève, et le moment où tu es revenu à l'école en tant que CPE?
Alors, il y a quand même une différence. Il y a une prise de conscience que le harcèlement existait, parce que déjà, moi, à mon époque, quand j'ai vécu du harcèlement, il y avait un peu cette idée que le harcèlement, c'était coulé, ça faisait du bien aux gens qui le subissaient.
Ça les endurcir.
Oui, voilà, ça les endurcissait. Ça... Et puis, il y a aussi ce truc de... En fait, comme tu le disais très bien, Colin, il y a une idée que ça tombe pas sur n'importe qui, le harcèlement. Enfin, et ça, c'est quelque chose qui est réfuté souvent dans les campagnes. Ah, ça pourrait arriver à n'importe qui, mais en vrai non, ça n'arrive pas à n'importe qui, ça arrive aux personnes qui sont atypiques, alors qui vont être atypiques parce que elles sont LGBTQ, même si elles ne le savent pas forcément encore.
Donc, en tout cas, il y a une expression de genre, voilà, qui ne correspond pas tout à fait à la norme attendue.
Exactement, parce qu'elles sont neuroatypiques, parce qu'elles sont grosses, il y a une prévalence du harcèlement sur les personnes grosses, parce que elles ne comprennent pas les codes sociaux exactement dans lesquelles elles doivent se positionner, etc. Donc ça va tomber sur des personnes comme ça qui quand même ont quelque chose d'atypique, et nier ça, c'est pas leur rendre service déjà en soi. Donc moi, à l'époque, en fait, quand j'étais harcelée, il y avait un peu ce truc aussi que les profs, ils pensaient aussi que j'étais atypique et qu'il faudrait que je rentre dans le moule, en fait, et que le harcèlement, ben, c'était bien, ça me faisait comprendre comment rentrer dans le moule. En fait... Ça fait comprendre qu'on n'y est pas, et c'est extrêmement destructeur. Aujourd'hui, il y a quand même cette idée que le harcèlement, c'est destructeur. Tout le monde peut s'accorder quand même à dire ça. Cette idée que ça renforce, c'est du passé, parce qu'il y a eu énormément de communication sur le sujet, etc. Mais on a quand même toujours un peu du mal avec cette idée que les enfants atypiques attirent, c'est un peu de leur faute quand même. Voilà, ça, c'est toujours quand même présent. Et que quand même, s'ils faisaient un petit effort, ils ne se feraient pas harceler. Oui, mais en fait, ils ne le choisissent pas. Et ça, c'est quelque chose qui a encore du mal à passer.
Et voilà. En même temps, pour revenir sur ce que tu disais sur cette sur-individualisation des comportements des harceleurs, tu dis que la lutte contre ce harcèlement scolaire, il passe aussi beaucoup par la punition des harceleurs. Et que ce n'est pas tout à fait satisfaisant non plus.
Non, parce que c'est ce que j'explique aussi dans la conf, et ça, c'est les travaux de Sylvie Héral et d'une cohorte de chercheuses qui ont écrit, ça date déjà de 2012-2013, donc La Fabrique des Garçons. Ça montre qu'en fait, quand on punit et sanctionne les garçons pour des actes considérés comme de déviance par rapport à la norme scolaire, on renforce ces comportements-là chez eux, parce que ça leur fait comme un rite de passage vers une masculinité qui est en fait vue comme positive, en fait. Voilà. Qui ne l'est
donc
pas. Hein. Bien sûr,
punit,
c'est la masculinité toxique, mais...
Ouais. Et en tout cas, je précise, Amy, que tu distribues une bibliographie pendant la conférence gesticulée au public pour qu'ils puissent retrouver toutes ces références, que je vais faire en sorte aussi de mettre sur le site de Radio Campus Paris à la page de l'émission.
Une évidence, l'information sexuelle à l'école, ce n'était plus possible d'y échapper. Les quelques élèves de 6e et 5e qui auraient encore des doutes sur les choux et les roses seront fixés une bonne fois, c'était des blagues. En sciences nat, ils étudieront les mécanismes de la procréation d'une manière exclusivement scientifique, précise la circulaire ministérielle. Dans beaucoup d'établissements, on avait déjà abordé le problème.
Moi, c'est sur les rapports du sexe masculin et sur le sexe féminin.
Mais tu sais déjà des choses?
Oh oui, quand même, je sais, pas par mes parents, mais par mes copains, mes copines, tout ça, on en parle des fois.
Moi, j'aimerais assez qu'on m'apprenne sur le plan scientifique et sur le plan affectif aussi. Parce qu'en général, en troisième, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. Enfin, les parents nous l'apprennent sur la question scientifique. Ils nous apprennent exactement ce que c'est que l'amour exactement, mais ils ne nous le disent pas sur le plan vraiment affectif, moral.
On est en 1973, c'est le début des premiers cours d'éducation sexuelle mis en place par la circulaire Fontanet du nom du ministre de l'Éducation nationale de l'époque. L'éducation à la vie affective et sexuelle, comme on dit aujourd'hui, c'est un enjeu important, Amy. L'écrasante majorité des établissements scolaires n'appliquent pas la loi qui les oblige pourtant à dispenser 3 séances, hein, je crois, d'éducation à la vie affective et sexuelle tous les ans à leurs élèves, faute de moyens ou de personnel formé notamment. En janvier, alors qu'il était ministre de l'Éducation, alors qu'il était Premier ministre, Gabriel Attal annonçait que des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle feraient partie d'un nouveau programme à l'école primaire. Bon, on attend de voir. Peut-être une petite réaction, Amy, sur l'archive qu'on vient d'entendre.
Bah, déjà, ça respire l'hétérosexualité, j'ai envie de dire. Et comme malheureusement beaucoup d'éducation à la vie affective et sexuelle aujourd'hui, parce que les personnes qui la font, elles sont empreintes de ça. Ça, c'est pareil, c'est ce que dénonce Gabriel Richard dans son livre. Mais on voit que, effectivement, les adolescents et adolescentes, ils ont besoin de ces informations. Donc, ça serait bien quand même que ça...
Et du coup, toi, Amy, en tant que CPE, tu as décidé de t'y coller justement pour combler ce vide des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle qui n'étaient pas dispensées alors qu'elles le devaient. Et en fait, ça a été l'occasion pour toi de voir que ces séances, elles étaient quand même très insatisfaisantes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu?
Oui, j'avais mené ces séances avec l'infirmière de l'établissement. Mmh. Déjà, ça me pose question, hein, le fait qu'on confie ça au service médical par essence, qu'est-ce que ça vient dire d'un rapport hygiéniste qu'on a aux questions de sexualité. Et cette infirmière, on menait finalement une intervention assez chouette, assez qui ouvrait au dialogue. On avait fait un brainstorming avec les élèves sur qu'est-ce que ça voulait dire le sexe pour eux. On passait un peu par plein de choses. Et puis, elle a stoppé à un moment donné l'intervention pour dire maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est un rapport sexuel. Et bien sûr, elle décrit un rapport de pénétration pénis, vagin, et aussi en mettant des louches d'hétéronormativité immense à dire que le garçon doit inviter la fille au restaurant avant, donc à vraiment poser tous les jalons d'une façon d'être d'entrer en relation qui est complètement cis-hétéro-patriarcale. Et moi, j'étais juste atterrée ce jour-là.
Oui, alors ça nous fait rire aussi parce que tu le racontes assez bien, mais c'est important parce que ça, c'est assez grave, tu le dis d'ailleurs dans la conférence, hein, c'est grave ce qui se passe, parce que ça peut participer à créer des situations de mise en danger des jeunes filles, par exemple.
Oui, tout à fait. Ce que ça provoque, ça, c'est déjà l'idée que c'est le garçon qui désire et la fille qui doit répondre à ce désir-là.
Et, l'homme propose, la femme dispose.
Voilà, exactement. Il y avait forcément dans cette classe qui a vécu cette intervention, il y avait forcément des élèves LGBT qui ont reçu aussi cette façon de voir les choses, donc ça dit quelque chose d'un rapport homme-femme. Moi, je fais des guillemets en l'air comme ça, vous les voyez pas, mais de ce que c'est censé être et de comment les filles doivent se soumettre, au désir masculin, au fait que c'est eux qui mènent la danse en fait.
Alors, après cette expérience en collège, tu as décidé de partir au lycée en disant que peut-être tu aurais davantage de liberté pour mettre en place des projets et notamment faire infuser cette fameuse idéologie féministe et queer. Et donc, tu te retrouves au lycée avec un directeur d'établissement d'ailleurs un petit peu plus ouvert. Mais là aussi, tu fais face à des difficultés et tu as décidé finalement de quitter l'éducation nationale il y a 2 ans. Ça veut dire que penser le féminisme à l'école pour la réformer de l'intérieur ou en tout cas essayer de réformer peut-être au moins un établissement, c'est impossible aujourd'hui, tu penses ?
Voilà, question. Est-ce que c'est impossible? En tout cas, moi, je m'y suis épuisée. Ouais. Ça, c'est une réalité. J'étais pas seule. On était quand même deux à vraiment se soutenir dans les actions qu'on pouvait faire. Donc, je pense que ça, ça compte. Mais deux, c'est peut-être pas assez. Je me suis dit après coup que si on avait été peut-être plus nombreux, nombreuses, ça aurait été plus aidant pour tenir le coup et continuer. Et puis, en vrai, moi, ce qui m'a éloignée de l'école, c'est pas tant les questions du genre qui, quand même, malgré tout, réussissent, ne serait-ce que parce que les élèves elles-mêmes sont de plus en plus féministes. Et donc, du coup, on peut s'appuyer sur elles. C'est terrible, mais souvent, on s'appuie sur les élèves pour porter ces sujets-là aussi, en essayant au maximum, évidemment, de ne pas les mettre en danger pour autant. Mais c'est elles qui nous aident, en fait, à pouvoir porter ces sujets-là dans les établissements.
Parce que sans elles, on ne peut rien faire aussi, j'imagine.
Totalement. Et puis, comme je raconte dans la conf, au bout d'un moment, nous, on n'est plus que des passeuses avec ma collègue. On fait en sorte que ce qu'elles veulent faire se fasse. Mais surtout, ce qui m'a éloignée de l'école, c'est le néolibéralisme et le classement, la sélection, tout ce qui a trait finalement avec le capitalisme échevelé qui a cours à l'école et pas tant les questions de genre en soi.
On va quand même essayer de finir sur une note positive, savoir ce qu'on peut faire quand même dans ces cas-là. Toi, tu as créé une association à Bordeaux, je l'ai dit en préambule. Ça s'appelle La Foudre Prend Racine. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui, quelques mots. La Foudre Prend Racine, donc, c'est une asso culturelle d'éduc pop queer et féministe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a comme deux axes une programmation culturelle sur Bordeaux autour du lesbianisme, en fait, la culture lesbienne. Et,
puisque tu es toi-même lesbienne, je crois qu'on n'a même pas eu l'occasion de le dire en 30 minutes. Donc, insistons sur ce point.
Tout à fait. D'ailleurs, quand on me demande ce que je fais maintenant dans la vie, généralement, je dis que je suis lesbienne à plein temps, voilà. Et puis un deuxième axe qui est celui de sensibiliser, questionner, pousser, alors que ça soit au sein même de la communauté queer pour en fait nous donner du pouvoir d'agir pour exister quand même dans ce monde, on en a besoin vu les actualités récentes, voilà, de faire corps et faire front ensemble, ou auprès du grand public aussi, auprès duquel on intervient en milieu scolaire encore, ou par des formations, des ateliers d'éducation populaire et la diffusion, bien sûr, de la conférence gesticulée.
Eh ben, merci beaucoup, Amy Edash. Rébellion d'une CPE, donc ta conférence gesticulée, c'est à découvrir ce week-end à la station Gare des Mines, où tu seras accompagnée du collectif Queer Éducation, qu'on a aussi reçu dans cette émission et qu'on salue à cette occasion. C'est ce samedi à 17h30 à la station Gare des Mines, prix libre à partir de 5 euros. On se quitte avec la nouveauté musicale du jour. C'est la sortie du nouvel EP de l'artiste hyperpop Louise BSX, à découvrir ce samedi sur la scène de la Flèche d'Or, bah, juste après la conférence gesticulée de Amy, tout simplement.
Vous aviez raison, j'ai pas toujours été hâte, pas toujours été conne, il m'a fallu des aînés, du travail et du temps, si ça continue comme ça. Dans un temps, pas de retour à zéro. Mais moi j'adore jouer. La bisou est à vendre, son nom sexualisé. Ouais, je vais tout raser. Je vais commencer par les jambes. Le reste on verra après. Quand on voudra m'entendre.
Épisodes du Lobby sont bien sûr à retrouver sur les applications de podcast et sur notre site radiocampusparis.org. C'est aussi là que vous retrouverez l'ensemble des références citées dans cette émission. Si vous aimez notre travail, deux petits gestes pour nous soutenir, s'abonner à notre flux de podcast et nous suivre sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt.
Excuses sont un test personnalisé. Ouais,
je n'ai jamais rien signé. C'est ma valeur ajoutée. Trop bonne, trop comme, c'est le projet. Trop bonne, trop comme, toujours fraîche à l'arrivée.